Merci à toutes et à toutes d'être présents ce soir pour cette séance du cycle Belgian Theory. Je remercie Geneviève de Mapeu d'être présente avec nous, qui est programmatrice et médiatrice culturelle du service civilisation, société et société, science et société, pardon, de la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou et avec qui nous avons le plaisir d'organiser cette série de rencontres. Alors, vous savez que c'est une séance qui a lieu dans le fil des séances fiction et vérité du cycle Belgian Theory. Belgian Theory, c'est ce cycle qui est consacré à la philosophie et aux sciences humaines, publié en Wallonie et à Bruxelles, et qui met à l'honneur et en valeur la production des philosophes dans ce domaine, en dialogue avec la production française. Le cycle Fiction et Vérité, ce cycle donc Belgian Theory, qui a été créé par le philosophe Laurent de Sutter, le cycle Fiction et Vérité, lui, à l'intérieur de ce cycle Belgian Theory, est particulièrement consacré en trois séances à Eric Clemens, poète, philosophe, qui a publié récemment Le fictionnel et le fictif, qui est un livre très riche, qui interroge l'usage de la notion de fiction, son rapport complexe avec la notion de vérité, et en abordant toute une série de domaines, dont le domaine de la littérature, de la politique ou de l'art. Après une séance plus particulièrement consacrée au langage et à la littérature, pour ceux qui étaient parmi nous dans le dialogue passionnant que Eric Clemens a pu avoir à la fin de l'année dernière avec Christian Prigent, eh bien nous allons aborder aujourd'hui plus particulièrement des thématiques politiques, à l'occasion de la sortie d'un livre d'Eric Clemens. Alors, Eric Clemens donc sort tout récemment ce livre pour un pacte démocratique, l'enjeu d'une double assemblée. Je vais laisser bien sûr se dérouler le débat dans un très court instant, mais je ne dis que ceci comme bande de lancement: particratie, abstention massive face au droit de vote, défiance, méfiance envers les élus, promesses électorales jamais non tenues. Si cela vous a un petit parfum d'actualité, eh bien, c'est tout aussi bien. En tout cas, ce sont des questions fondamentales qui ouvrent ce livre pour un pacte démocratique. Eric Clemens tente d'y apporter de manière très pédagogique et très profonde des pistes de solutions. Alors, avec lui autour de ces questions, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir Jean-Yves Prancher, ancien élève de l'École normale supérieure, qui est membre du Centre de théorie politique de l'Université libre de Bruxelles, qui y enseigne. Et il est l'auteur de deux livres, notamment Le procès des droits de l'homme, Les droits de l'homme rend-il idiot, publié avec Justine Lacroix aux éditions du Seuil. Sixtine Van Outrive Didoel, doctorante, qui est aspirante au Fonds national de recherche scientifique en Belgique et qui a notamment écrit plusieurs textes sur la pensée de Murray Bookchin et qui travaille sur la Commune de Paris. Alors vous pourrez voir tout à l'heure, tous les livres de nos auteurs seront en vente à la librairie Wallonie-Bruxelles. On se retrouvera d'une manière conviviale autour d'un verre et vous pourrez voir notamment un catalogue d'expositions que Sixtine a réalisé, exposition sur la Commune de Paris, puisqu'elle travaille particulièrement sur la Commune de Paris. Et puis, en lui donnant la parole, je voudrais vraiment infiniment remercier une nouvelle fois Sylvain Burmont d'avoir accepté d'animer ce débat qui se ponctuera par quelques questions si vous en avez. Sylvain Burmont, directeur du quotidien en ligne AOC, producteur à France Culture et professeur associé à l'École des hautes études en sciences sociales. Merci encore à lui d'avoir accepté d'animer ce débat et je lui rends la parole et le micro.
Merci beaucoup. Merci. Je corrige, c'est vraiment pas grave, mais je suis plus à l'École des hautes études, mais à l'Université Paris 1, mais voilà. Je suis très heureux de me retrouver de nouveau avec vous, Eric Clemens, pour la suite de ce cycle en trois temps, qui est consacré à votre travail dans toutes ces dimensions. On avait commencé par la poésie avec Christian Prigent. On va poursuivre avec la philosophie politique avant, à l'automne prochain, de parler de philosophie pure, disiez-vous. Mais j'espère qu'il sera question de philosophie aujourd'hui aussi déjà. Mais c'est vrai sur des objets particuliers qui sont les objets politiques auxquels vous consacrez ce dernier ouvrage pour un pacte démocratique qui, qui vient de paraître et qui va nous donner l'occasion de poser des questions de théorie politique appliquée d'une certaine façon, nourrie aussi par la réflexion que l'actualité nous commande en quelque sorte. Et cette actualité dans ces domaines est évidemment dense. C'est l'actualité électorale ici en France, bien sûr, entre deux élections nationales, mais c'est de manière plus générale l'actualité politique des démocraties européennes et même au-delà de l'Europe qui se trouve posée par ces réflexions. Alors avant de donner la parole aux deux chercheuses et chercheurs qui vont nous parler de leur travail en écho au vôtre, Eric Clemens, peut-être vous pourriez commencer. Je vous représente pas à nouveau puisque ça a été fait l'un et l'autre. Peut-être vous pourriez commencer notamment en partageant avec nous ce qui, j'imagine, a été en partie le point de départ de ce livre, de votre réflexion, c'est-à-dire d'abord un diagnostic de la situation dans laquelle nous trouvons. Il faut peut-être commencer par décrire ce à quoi nous avons affaire, quel problème se trouve posé, avant de proposer des solutions, parce que c'est aussi toute l'ambition, évidemment, de la théorie politique, qui n'est pas seulement qu'une philosophie politique. Peut-être on aura l'occasion de revenir sur cette distinction, d'ailleurs.
Oui, bon, à la fois tâche facile et lourde tâche, je veux dire tâche facile, puisque tout le monde, évidemment, a un point de vue critique, et spécialement, j'imagine, ceux qui viennent aujourd'hui dans cette salle sur la politique, et en même temps lourde tâche, parce qu'il ne s'agit pas de ressortir des évidences qui sont trop clichés. Je voudrais d'abord souligner une chose, c'est que ce qui nous rassemble tous les trois, malgré la diversité de l'âge et de l'expérience et des connaissances entre nous, on n'a pas la même bibliothèque, je dirais. Je vous avais dit ça, je crois, la première fois que j'ai pris contact avec vous. Donc je voudrais, ce qui nous rassemble, ça m'a frappé, c'est une chose toute simple, c'est que aussi bien chez Lefort, que prend cher, pratique énormément, comme moi d'ailleurs, mais que chez Bookchin, je ne sais pas comment on prononce Bookchin.
Bookchin.
Comment ?
Bookchin,
donc ça va, ça. Ouais. Voilà. Très. Eh bien, le point commun et le levier, si je puis dire, c'est le refus de dominer et d'être dominé. C'est le refus, oui, c'est ça, d'obéir et de commander. Le refus d'obéir et de commander. Je crois que et Lefort et Bookchin sont des auteurs que nous travaillons et qui ont cet axe-là, ce levier-là, et qui est fondamental. Je pense que c'est une bonne façon de l'aborder. Bon, alors, pour maintenant venir à la question que vous soulevez, je pense que, tout de même encore une deuxième chose, ce qui relie, ce qui peut vous paraître un peu hétéroclite dans mes intérêts, la littérature, la politique et puis la philosophie en elle-même, c'est la question du langage. Et la question du langage, c'est la question de la représentation. Or, c'est là que se noue la crise de la politique, à mon avis. Bien entendu, tous les mots qu'on emploie en politique aujourd'hui sont, dont le mot « crise » d'ailleurs, hein, sont des mots à repenser, à remettre en question, etc. Mais je pense que le noyau de cette crise, c'est la question de la représentation. Et pour l'introduire, parce que là, j'ai un auteur que je pratique peut-être plus que les deux autres, qui est Jacques Lacan. Je me dis souvent que je suis un des rares philosophes qui parvient, enfin pas qui parvient, mais qui essaye d'intégrer Lacan à l'intérieur de la philosophie, contre les psychanalystes aussi. Mes amis psychanalystes ne sont pas très partisans de mes injections de lacanisme dans la philosophie, mais enfin, peut-être que toi tu es plus proche de Lacan aussi, mais je ne sais.
En fait, oui, mais j'en parle pas trop, mais en fait.
Ah voilà, bon, ben alors très bien, ça nous fait une infinité de plus, oui, d'accord. Bon, mais alors voilà, j'entendais très souvent à la télévision, entre autres à cette émission tardive que vous regardez peut-être, c'est ce soir, et une phrase de Lacan qui était citée ces derniers temps. Le réel, c'est ce contre quoi on se cogne. Et ça m'a, bon, j'étais ravi à la fois que tout d'un coup Lacan devienne quelqu'un qui a accès à la télévision. Mais je ne suis pas sûr que quand on redit cette phrase, on se rend compte de ce qu'elle implique. Parce que si le réel, c'est contre quoi on se cogne, et il y a d'autres définitions d'ailleurs que Lacan donne, c'est ce qui fait retour, c'est ce qui fait trou, etc. Peu importe. Mais ça veut dire que le réel, c'est ce qui échappe à la représentation. C'est précisément ce qui échoue. Si on essaye si on s'imagine pouvoir le symboliser dans un langage, un discours, etc. Et donc, la crise de la politique, c'est la crise de la représentation, au sens où tout notre destin d'être humain, c'est précisément de nous placer dans la crise qu'introduit le langage. La crise entre nous et le réel qu'introduit le langage. Parler, c'est ajouter au réel. Et du même coup, le déplacer et manquer sa cible, tout en essayant de transformer à travers ce manquement. Puisque c'est ça le double jeu du langage, évidemment. Le langage essaye de recouvrir le réel et en même temps, évidemment, il essaye d'y ajouter une formation d'un autre monde ou d'une partie du réel qui ferait un autre monde, etc. Ça, c'est vraiment la chose essentielle. Et en politique, c'est particulièrement vrai. La profusion des discours politiques est absolument colossale. Enfin, je veux dire, on est plus qu'abreuvé, on est assommé même par l'abondance des discours. Et tous ces discours prétendent parler du réel, prétendent donner la vérité du réel ou en tout cas la représentation du réel au sens d'une représentation qui serait adéquate au réel. En réalité, il n'y a pas à pleurer là-dessus. Puisque la différence que nous introduisons entre le réel et nous, c'est ce qui va nous permettre de faire un monde, une réalité qui diffère du réel, mais qui n'en est pas évidemment opposée. Donc la question, c'est qu'il y a une approche du réel qui doit se faire. Mais il faut savoir que la représentation n'est qu'une approche. Il faut savoir que la représentation a une dimension que, bon, pas par provocation, mais tout de même pour des raisons assez pointu, j'appelle du fictionnel, hein, au sens où la racine, qui n'est pas fictif, hein, mais où la racine du langage et de notre intervention symbolique sur le réel, c'est toujours un façonnement. Nous façonnons une partie du réel. Chacun sait très bien que, ici, par exemple, dans cette salle, comme n'importe où nous allons, il n'y a pas une chose qui est réelle au sens du réel brut. Bien sûr, je peux me cogner contre le fauteuil ou contre la table, ça oui, mais c'est déjà quelque chose de transformé, donc qui représente autre chose que c'est plus du bois, ou si c'est du bois, cette table en tout cas, c'est plus du bois, c'est déjà autre chose qui est transformé. Et donc, quand il s'agit des êtres humains en société, quand il s'agit des parlers humains, comme dirait Lacan, de ceux qui sont des êtres parlants et qui précisément viennent avec leurs différences qu'ils introduisent par le langage dans la société, on voit bien comment la différence éclate, devient une multiplicité, devient presque immaîtrisable et introduit la crise. Donc c'est constitutif à la politique, c'est constitutif à l'action, c'est comme c'est constitutif à l'être humain, d'être toujours dans cet écart entre le réel et nous, mais qui nous permet en même temps d'y introduire un supplément qui va le transformer éventuellement en monde adéquat ou pas, peu importe, mais pas adéquat au réel, parce que ça ne veut rien dire. Le réel est infini, c'est un pur devenir, etc. Voilà. Donc la crise de la politique aujourd'hui, elle est une crise qui est, comment dire, consubstantielle à la politique, comme elle est consubstantielle à l'être humain. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a de pire aujourd'hui? Parce qu'il y a tout de même des spécificités d'aujourd'hui. Parce que ce que je dis vaut aussi bien pour le temps des Grecs ou pour une société Nambiquara d'Amérique du Sud. Donc ce qu'il y a de spécifique aujourd'hui, c'est évidemment que nous sommes pris dans un système représentatif extrêmement élaboré. Je suis désolé enfin, je suis pas désolé d'être en France du tout. Quoique d'origine belge, vous entendez bien que je suis pétri de culture française. Mais enfin, le système politique français est un des pires au niveau des démocraties occidentales. Puisque ce système, c'est un système où la représentation est devenue absolue, pour ainsi dire. En tout cas, est devenue dominante. Ça, c'est sûr. Absolue, non, mais dominante. Hein, à tel point que le pouvoir exécutif escamote, pour ainsi dire, le pouvoir législatif. Mais c'est des choses qu'on retrouve partout. Donc la crise de la représentation se fait sentir par le fait qu'un homme est censé donner tout l'axe de la politique, que cet homme en plus entraîne, on verra si ce sera le cas encore cette fois-ci, mais dans vos élections législatives, mais en tout cas jusqu'à présent, la plupart des présidents avaient toujours une assemblée législative qui était du même bord qu'eux et qui était même sur leur ligne. Et donc on voit bien que cette représentation est complètement figée. Et que c'est ce qui est figé là, c'est la crise. C'est le fait qu'on n'assume pas l'écart du réel et de l'action. Et que, donc ça, tant qu'on n'assume pas l'écart... Et c'est ça, la démocratie. La démocratie, ça consiste à faire bouger cet écart qui est introduit par l'impossibilité de ne pas parler pour faire de la politique et pour agir, hein, mais en même temps, en sachant que ça ne correspond pas au réel. Mais que ça peut correspondre à un monde... qui est une partie du réel dont nous faisons une société. Oui, c'est ça le... Et là, donc le système présidentiel, du point de vue-là, escamote tout ce débat, mais même dans des pays comme la Belgique, où effectivement, il y a un système des partis et donc des accords entre les partis, donc il y a un peu plus de lignes politiques qui doivent se concilier. Et une des traditions de la Belgique, c'est de parler de... pas de conciliation, mais de... De compromis, voilà, c'est ça, merci. De compromis, donc c'est sûr que ça paraît un peu moins violent, mais un peu moins raté, si j'ose dire, un peu bon. Mais pas tellement, finalement. D'ailleurs, comme on l'a vu, dès qu'il y a un problème important, comme l'affaire du Covid, depuis 3-4 ans, ben, le pouvoir exécutif devenait tout à fait dominant. Donc c'est c'était plus le président, mais c'était le Premier ministre et 2-3 ministres, pas plus, qui décidait de tout, et le Parlement n'a jamais, avant 2 ans, il a fallu 1 an et demi, 2 ans, avant que le Parlement puisse discuter des mesures qui étaient prises depuis 1 an et demi, 2 ans pour pallier au problème du Covid et de la santé. Donc vous voyez que déjà à ce niveau-là de la représentation instituée, hein, ben on voit bien que la mécanique ne fonctionne plus. Et que, ce qui fait l'essence de la démocratie, c'est-à-dire la remise en question perpétuelle, et sinon par tous, en tout cas par le plus grand nombre possible, de l'action et du langage de l'action, ne fonctionne plus. Et donc voilà, je pense que c'est ça la base de la discussion qu'on va entamer aujourd'hui. Quelle solution apporter à cette crise de la représentation ?
Alors oui, je crois que ce constat, vous le partagez, chacun le dirait avec ses mots, avec peut-être ses références, ses auteurs ou sa bibliothèque, pour reprendre votre expression, Éric Lemens, mais ce constat est assez largement partagé. Il est à la fois, et vous le disiez, intemporel, il a existé chaque fois qu'on a essayé de mettre en œuvre quelque chose comme la démocratie, mais il prend des formes contemporaines particulières. Il évolue en permanence. D'où l'intérêt qu'il y a à revenir parfois à des formes historiques. Vous disiez tout à l'heure que vous veniez de faire une exposition, donc un catalogue, Sixtine Hiedewelde, à propos de la Commune de Paris, parce que vous vous intéressez particulièrement à ce qu'on appelle le communalisme, dont je crois vous avez aussi aperçu... une sorte de ressemblance dans le mouvement des Gilets jaunes auquel vous vous êtes intéressé, parce que ce qui fait la spécificité de votre travail de philosophe, c'est qu'à la fois vous réfléchissez au plan théorique, mais d'un autre côté, vous prenez en quelque sorte le risque d'aller frotter cette réflexion comme le font d'autres sciences humaines, à la réalité, au réel, d'aller cogner, si j'ose dire, cette théorie sur place. Alors pas pour la Commune de Paris où c'est des documents, mais évidemment pour ce mouvement des Gilets jaunes. Je vous laisse nous expliquer et peut-être aussi nous dire pourquoi Murray Bookchin est une de vos références.
Ouais. Un grand merci. Oui, effectivement, moi, j'essaye de concentrer ma thèse. Je l'ai appelée cette enfin, je l'ai appelé, il n'est pas encore fini, théorie et pratique de la démocratie directe communaliste. Donc je pense que les deux sont vraiment fondamentales, sont vraiment fondamentaux, pardon, je suis fatiguée. Et c'est vraiment très important de voir comment la théorie peut être remise en question par la pratique, poussée beaucoup plus loin par la pratique, et également les liens de comment la pratique peut se nourrir de la théorie. Alors moi, par rapport à la crise de la démocratie représentative, je trouve bien. En fait, le terme crise, je l'utilisais, je l'adoptais parce qu'en fait, c'est très voilà, c'est acté. Maintenant, on est en crise de la démocratie représentative et je suis complètement d'accord. Maintenant, ma question que je me pose à chaque fois, c'est de me dire, est-ce que si la démocratie représentative fonctionne comme prévu, est-ce qu'on en a envie? Est-ce que c'est ce système-là qu'on veut? Est-ce que c'est le meilleur système qu'on peut amener? Et du coup, face aux multiplicités de théories dont Eric en propose une, mais il y a énormément d'autres propositions, il y a celle du communalisme, qui est une certaine version de la démocratie directe. Donc je me suis intéressée du coup à la pensée de Murray Bookchin, qui est un penseur américain. Alors il était marxiste, puis il est devenu anarchiste, et au final il a fait un peu une critique des deux, et il a théorisé le communalisme. Mais le communalisme en soi, c'est une manière de, on va dire, c'est une systématisation, mais d'expériences historiques qui sont faites depuis, même avant la Grèce antique. Le communalisme, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une théorie politique qui vise à poser deux questions qui sont corrélées. La première, c'est celle de l'unité politique pour qu'un peuple s'autogouverne. Et la seconde, c'est celle de la manière d'exercer le pouvoir. À l'unité politique, le communalisme remet en question l'État-nation et propose la commune comme unité politique fondamentale pour exercer le pouvoir. Pour le mode d'exercice du pouvoir public, il propose non pas la démocratie représentative, mais la démocratie directe comme manière de l'exercer, dans le sens où, au lieu de donner un rôle institutionnel au Parlement, c'est-à-dire à nos représentants, d'avoir une assemblée des représentants en tant qu'institution qui exerce le pouvoir, on donnerait un rôle institutionnel au peuple assemblé. Et donc, en fait, on choisit la commune. Pourquoi? Parce que c'est le seul lieu où le peuple peut se réunir, délibérer, décider en face à face, plutôt que d'avoir des recours à des représentants et des représentantes. Et donc, le communalisme propose que la municipalité, ça soit le lieu où les communautés vont gérer collectivement leurs affaires. Qu'elle soit politique, économique, et ça c'est très important, on peut y revenir, et sociale, sur le mode du face-à-face, donc en assemblée, et pour toute question qui dépasse la commune, parce qu'évidemment il y en aura énormément, ces personnes-là sélectionnent des délégués avec un mandat impératif et révocable, qui vont donc représenter ces assemblées à un niveau qu'on appellerait le niveau confédéral, donc au sein de conseils confédéraux, avec à chaque fois, imaginez, des délégués avec un mandat impératif de leurs assemblées, c'est-à-dire vraiment une liste d'instructions, voici notre décision, on la donne aux délégués, et si il ou elle ne la respecte pas, il ou elle peut être révoqué. Et donc vraiment, ça suppose cette distinction fondamentale entre, d'un côté, la prise de décision politique, qui doit être l'apanage du peuple assemblé, donc de l'assemblée populaire, et la représentation, l'administration de ces décisions. Alors ici, on peut se demander, cette vision du peuple assemblé, moi, généralement, on se réfère donc toujours à la démocratie dans la Grèce antique en se disant, ben voilà, Demos Kratos, c'était le pouvoir au peuple. Mais en fait, il y a une version qui se trouve de cette démocratie dans la Grèce antique assez intéressante, qui a été travaillée par Daniela Kamak aux États-Unis, et donc qui redéfinit le Demos d'une autre manière. Juste une petite parenthèse, je prends la Grèce antique comme exemple, pas parce que je pense que c'est un exemple d'émancipation totale, la présence d'esclaves, enfin l'existence du système des esclaves et l'exclusion des femmes et des étrangers étant un problème fondamental. Mais donc voilà, donc l'idée, en fait, à ce moment-là, donc on disait que le démos, c'était quoi? C'était le peuple. Mais en fait, les travaux de Daniela Kamak, ce qui montre, c'est que le démos, à l'époque, n'était pas le peuple, mais était en fait l'assemblée. Cette assemblée-là, existait donc déjà avant l'avènement de la démocratie. Mais l'avènement de la démocratie, c'est quoi? C'est le moment où l'Assemblée a pris le pouvoir sur l'élite politique. Donc c'est vraiment ce moment où le démos a réalisé le kratos, le démos a pris le pouvoir. Et ce qui différenciait en fait une personne comme étant membre de l'Assemblée ou membre de l'élite politique, c'est le fait qu'il ou elle influence la décision en tant qu'individu et pas en tant que membre de la masse. Et donc vraiment, le communalisme s'inspire de ça au niveau de la remise en question complète de la personnalisation de la politique. C'est vraiment de se dire que la politique devrait être dépersonnalisée, les postes politiques importants devraient être dépersonnalisés et pas liés à des traits particuliers, ce qui est complètement le système dans lequel on est pour le moment. Donc ici, la proposition vraiment, c'est de dire l'avènement de la démocratie en tant que règne de l'Assemblée mais pas simplement que l'Assemblée prenne le pouvoir sur l'élite politique, mais en fait la suppression d'une élite politique. Et c'est là sûrement qu'on va diverger. Et donc en fait, c'est vraiment l'idée de se dire qu'il n'y a plus, il ne devrait plus y avoir du classe de personnes qui sont professionnelles de la politique, comme elles seraient professionnelles d'être coiffeur ou vos métiers singuliers. Donc vraiment se dire que la politique n'est plus une profession, mais l'activité quotidienne de toutes et tous, ce qui demande de nouveau des réajustements de société. Ces idées-là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elles ne sont pas juste dans la théorie. Elles sont vraiment dans la pratique. Elles ont été vues au cours de l'histoire, que ce soit pendant la Commune de Paris, que ce soit pendant les sections de la Révolution, la deuxième partie de la Révolution française en 1792, les sections des sans-culottes, que ce soit pendant les communes médiévales, que ce soit pendant la Révolution espagnole, et que ce soit aussi récemment, donc avec les Gilets jaunes. Alors les Gilets jaunes, vous en avez évidemment même entendu plus parler que moi en Belgique. Il y a une partie, enfin, en tout cas on peut en dire énormément de choses, mais les Gilets jaunes c'est un mouvement extrêmement hétérogène. C'est très compliqué de pouvoir les classifier ou pouvoir catégoriser ce mouvement. Mais il y a eu un élément qui était qu'on retrouvait relativement partout, c'est la critique de la représentation. Donc vraiment cette idée de dire, nous ce qu'on veut c'est pouvoir décider. Ce à quoi Emmanuel Macron avait proposé d'organiser un grand débat, mais les Gilets jaunes répondaient justement, non, nous on ne veut pas débattre, on veut décider. Et ça c'est vraiment une des grosses clés, c'est de dire, on ne veut pas de participatif où en fait on va simplement nous écouter, mais on veut pouvoir prendre un pouvoir de décision effectif. Les Gilets jaunes, ce que j'ai en particulier étudié, c'est les Gilets jaunes de Commercy, qui ont été à l'initiative de l'Assemblée des Assemblées. Les Gilets jaunes de Commercy, en fait, dès le début du mouvement, à partir du moment où Emmanuel Macron avait demandé d'élire des représentants, ont directement fait un appel aux autres Gilets jaunes de France à s'organiser en assemblée populaire partout, à créer des cabanes, des maisons du peuple, et à décider en assemblée générale quotidienne de toutes les mesures qu'ils devaient prendre et à décider de manière égalitaire. Et en fait, il y avait tout ce vocabulaire du communalisme qui était là. Donc c'est vraiment, j'avais l'impression d'entendre Bookchin qui était lu, alors que c'était pas du tout ça, c'était des personnes qui étaient non militantes. Alors il y avait évidemment, on peut en reparler, la présence de certains militants et certaines militantes qui étaient là, mais il y avait vraiment une réappropriation d'un vocabulaire qui était le vocabulaire aussi de la Commune de Paris, de dire on veut, si représentant il y a, ça doit être des délégués avec mandat impératif et révocable, au plus proche de la parole du peuple. Il doit y avoir une assemblée constante de la population qui doit être constamment présente aux idées politiques. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est pratiqué pendant tout le long du mouvement. Et ça s'est pratiqué donc au niveau local des Gilets jaunes de Commercy. Ils ont également fait un appel donc à l'Assemblée des Assemblées, donc avec des personnes qui étaient élues avec un mandat impératif et révocable pour discuter entre différents comités populaires des Gilets jaunes, entre différents ronds-points. Et à Commercy, la dynamique s'est en particulier poursuivie en présentant une liste aux élections municipales pour tenter de donner le pouvoir à l'Assemblée, vraiment avec l'idée de se dire, s'il y a des élus, s'il y a un maire, on va abolir la position du maire, c'est-à-dire que cette personne devra uniquement avoir un mandat impératif de l'Assemblée. Ce que l'Assemblée décide, eh bien le maire ou la maire fait sienne en fait la décision de l'Assemblée. Donc voilà, ça c'était un projet qui s'est présenté aux élections municipales de 2020. Alors j'ai pas spécialement envie de finir mon exposé cette partie-là sur une note négative. Ils ont malheureusement pas passé le seuil à 4 voix près, le seuil des 10%. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont réactivé des idéaux qui étaient vieux de 150 ans, mais en fait même encore plus vieux que ça, même au-delà de la Commune de Paris, et qu'ils ont vraiment proposé un projet démocratique qui tentait de donner le pouvoir au peuple, mais au peuple de nouveau au sens d'assemblée, étant donné que le peuple peut avoir de nombreuses définitions. Voilà, je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup. Je vais passer la parole tout de suite à Jean-Yves Pranchère pour poursuivre ce premier tour de parole, puis après on va continuer d'échanger. Premier tour de parole à partir de ce diagnostic qui a été élargi, la question du langage, la question de la professionnalisation politique, effectivement, qui me semble très très importante pour comprendre cette crise des Gilets jaunes, si tant est qu'on l'entend dans un sens très large, c'est-à-dire que c'était pas seulement les professionnels de la politique au sens strict qui étaient visés par ce mouvement, mais aussi par exemple les journalistes considérés comme des professionnels de la politique, à juste titre, pour certains, beaucoup d'entre eux, mais aussi les hauts fonctionnaires. Et je pense qu'il y a là quelque chose d'assez nouveau qui nous invite, Jean-Yves Pranchère, à finalement explorer cette tarte à la crème qui est devenue la crise de la représentation politique en, en ouvrant plus grand le champ d'observation, parce qu'on ne peut pas s'en tenir uniquement à une discussion sur les règles institutionnelles, est-ce qu'il faut les changer, comment pour résoudre cette crise. On est, je crois, obligé aujourd'hui de replacer tout ça dans une perspective beaucoup plus large. Je ne sais pas si vous partagez ce
oui,
point de vue.
Absolument. Il y aurait énormément de choses à dire, et j'aurais très bon envie de réagir à tout ce qui vient d'être dit, et je vais peut-être essayer. Je vais juste d'abord dire à quel point je suis content d'être ici. Eric a dit ce qui nous rassemblait. Je vais juste rajouter un mot sur ce qui nous rassemble. Je pense qu'il y a une phrase de son livre qui nous rassemble. C'est lorsqu'il écrit « La démocratie impossible force à l'institution de démocratie possible » au pluriel. Voilà, ça, je pense que c'est vraiment le point qui nous rassemble. Et cette phrase rend un son très derridéen. Je sais que tu es très attaché à la pensée de Derrida. Et je dirais que ce qui nous rassemble, c'est aussi des politiques de l'amitié. Hein, et dès que la politique doit être politique de l'amitié, donc je suis très content d'être ici pour témoigner de mon amitié pour toi et de mon amitié pour ta pensée, je veux dire. Voilà, c'est un point qui était important. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, je vais commencer à émettre des notes dissonantes. Je ne voudrais pas passer pour un rabat-joie et passer pour le social-démocrate classique que je suis profondément, mais voilà. Alors, sur la crise de la représentation, oui, il y a absolument ce point. Reste à savoir si la crise, c'est la représentation elle-même. Et je pense qu'ici, il faut introduire plusieurs distinctions. Et il faut également faire jouer un sens de la notion de représentation qu'on n'a pas fait jouer, qui est le sens théâtral de la représentation, c'est-à-dire la mise en scène. Le fait que la représentation, c'est d'abord l'institution d'une scène politique dans laquelle sont joués des conflits sociaux à une certaine distance de la société elle-même, et donc avec un certain filtrage réflexif. Et je pense que quand on parle de la crise de la représentation, il faut également penser au fait que la représentation est en crise également dans ce sens-là, hein, au sens où la scène politique n'est plus la mise en scène des conflits qui traversent réellement la société, mais tend à devenir, on va dire, un spectacle très largement autonomisé par rapport aux enjeux sociaux et qui tourne, alors pour toutes sortes de raisons, hein, qui peuvent parfois être très plates. Hein, le Bolloré a de l'argent, par exemple, c'est un élément de la crise, et qui va tourner autour de pseudo-débats, le burkini, enfin bon, et autres choses du même acabit. Donc je pense que ça, c'est un point qu'on ne devrait pas négliger. Maintenant, sur la question du diagnostic, je pense que on n'est pas seulement face à une crise de la représentation. Je pense que très profondément, on est d'abord face à une crise de la puissance publique et face à une crise de la capacité de la puissance publique à produire des biens publics. Et de ce point de vue-là, les règles institutionnelles ne sont pas tout, mais je pense qu'il y a certains enjeux qui peuvent sembler tout à fait techniques et qui touchent tout à fait au cœur de la crise, et en particulier au rôle que joue dans la crise la question de la nation, qui après tout est peut-être le grand fictionnel politique dans lequel on vit. Hein, c'est quand même la grande fiction moderne qui structure les sociétés, et donc à la question de l'Union européenne. Je vais dire les choses assez platement, je me sens très proche des thèses défendues par quelqu'un comme Nicolas Leuron, et ça peut sembler très bête, mais je pense que le fait que le Parlement européen n'ait pas une capacité budgétaire et le fait qu'on n'ait pas une fiscalité européenne, qui ne soit pas interétatique, hein, je dis bien une fiscalité européenne, c'est-à-dire qu'elle soit prélevée directement par le Parlement européen sur le marché européen, et donc avec pour cible principale non pas les individus mais les acteurs économiques qui échappent à l'imposition parce qu'ils jouent justement du caractère national des impositions. Bon, et ben un fait comme celui-là me semble absolument central en réalité dans la crise de la représentation. Nicolas Leuron, il dit très justement le slogan américain, c'était no taxation without representation. Mais nous, on aurait besoin du slogan « No representation without taxation ». Et ça me semble un point absolument juste. Et voilà. Et ici, vraiment, ce qui est en cause, me semble-t-il, c'est vraiment la question du statut de la puissance publique et de la capacité de la puissance publique à relayer les enjeux sociaux. Et de ce point de vue-là, je confondrait pas la question de la représentation et la question de l'exécutif et la question de la présidentialisation. Il me semble que ce sont trois questions différentes. Il y a une crise spécifique française qui tient à la place complètement démesurée, qui tient, un, l'exécutif par rapport au législatif, deux, la présidentialisation de l'exécutif. Mais par ailleurs, il me semble qu'il reste encore possible de décrire la crise de la représentation comme étant justement le fait qu'il n'y a pas de représentation, que le problème est que, tout simplement, les courroies de transmission sont suspendues. On est passé dans ce que Bernard Manin appelle la démocratie du public, hein, où justement la représentation traite les gens de la salle comme de simples spectateurs et pas comme des gens qui sont représentés sur la scène et qui sont en courroie de transmission avec la scène. Et il me semble que c'est là la difficulté. Et de ce point de vue-là, je résiste un peu. Enfin bon, c'est très enthousiasmant, toutes les expériences communalistes, la Commune de Paris, etc. En même temps, on doit quand même toujours se poser la question, pourquoi c'est des feux de paille? C'est des feux de joie et c'est des feux de paille. Bon, pourquoi? Donc comment on fait passer quelque chose de ça dans les institutions? Ça me semble vraiment la question. Et de ce point de vue-là, je ne pense pas que le mandat impératif soit une réponse, en fait. Je pense que la société est tout simplement trop divisée. Je pense que la division du travail n'est pas une réalité dépassable. On doit jouer avec la question. La question d'égalité doit se poser dans les conditions de la division du travail des sociétés complexes, et on a là un destin qui est très difficile à surmonter. Et de ce point de vue-là, j'aurais quand même tendance à préférer l'usage du référendum, en fait, à l'usage du mandat impératif ou de la technique révocatoire. J'ai plutôt tendance à penser que les assemblées et les constructions d'assemblées délibératives doivent donner lieu, pour finir, à des procédures référendaires éclairées plutôt qu'à des techniques de mandat impératif. Tout simplement parce que je vois très mal ce que le mandat impératif peut donner à l'échelle européenne. Enfin, voilà. Si chacun des pays européens envoie des gens avec un mandat impératif, je vois tout simplement pas comment on sort de l'État-nation. Si on fait ça.
Merci beaucoup, Jean-Yves Prochère. On va continuer sur cette question des sens de la représentation, qui ne peut pas être entendue simplement comme une délégation, ce à quoi renvoie immédiatement l'idée de démocratie représentative, mais doit être entendue également comme une représentation, vient de nous dire Jean-Yves Prochère, au sens théâtral du terme. Je pense qu'on peut aller plus loin que Bernard Manin et parler même de démocratie de l'audience, ce qui est encore pire que le public.
Absolument.
Puisqu'un public, c'est précieux. Enfin, un public, c'est ce que vous êtes ce soir. C'est-à-dire, c'est des gens qui font l'effort d'être là. C'est comme au théâtre. Une audience, c'est zapper par hasard et se trouver devant un écran à la télévision et accepter que son temps de cerveau disponible soit vendu par M. Bolloré. Donc, c'est encore pire, en fait. Mais il y a un autre sens, et qui peut-être rejoint dans certaines dimensions ce que vous proposiez, Éric Clémence, à propos de l'attention au langage, qui est le sens que propose aussi Bruno Latour pour les questions de représentation, qui est la visualisation. La représentation, au sens cette fois plus pictural du terme, et c'est pour ça que je voulais partir, parce que je me sens très latourien et douillien de ce point de vue-là, d'un descriptif, d'un diagnostic. Je pense qu'on a besoin d'en passer par là, de passer par une description, de faire des enquêtes et de faire tous des enquêtes comme citoyens pour essayer de décrire les situations dans lesquelles nous nous trouvons afin de trouver des solutions. Et ça, il s'agit bien d'un enjeu de représentation, c'est-à-dire se saisir du langage pour essayer, tout en sachant qu'on n'y arrivera pas, de dire le réel. Mais peut-être de remplacer les mots par d'autres, de s'interroger, je pense à ça parce que j'ai reçu un très bon texte aujourd'hui qui est intitulé « Contre le pouvoir d'achat » et qui nous invite à réfléchir à ce que véhicule une expression comme « pouvoir d'achat » et ce qu'il peut y avoir de désastreux dans une expression comme ça, à la fois dans sa réduction au combat individuel et au combat consumériste, au fond. Il ne s'agit pas de remettre en cause le problème des fins de mois, évidemment, mais vous l'avez compris, mais les mots sont importants, quoi. Donc voilà, je ne sais pas comment vous appréhendez cette question de la visualisation qui renvoie plutôt à un univers oui, visuel plutôt que langagier, mais au fond, je pense qu'on n'est pas très loin.
J'ai les plus grandes réserves pour un mot comme visualisation, excusez-moi. Non, non, parce que, oui, parce que là, je pense que c'est, ça, fait, ça rejoint un peu ce qu'il a dit sur le spectacle. Là. Dans la mesure où la représentation devient un spectacle, est-ce que c'est ça la visualisation?
Non, pas
j'imagine
du tout.
Que non.
Pas du hein?
Non, c'est ça. Non, je voudrais peut-être en arriver à autre chose. En m'appuyant, c'était un peu ma tactique de faire venir ces deux interlocuteurs. Voilà, mais, en m'appuyant sur chacun d'eux pour montrer comment les deux sont nécessaires. Je pense que tout ce qui est à l'échelon que Sixtine a montré communaliste, c'est-à-dire des assemblées de base, hein, et dont les Gilets jaunes ont été un des derniers exemples. Donc tout ce qui est mis en jeu, alors pas mise en représentation là, mais mise en jeu des divergences, me paraît effectivement un noyau du travail démocratique, de l'action démocratique. C'est d'abord, il faut rappeler tout de même que, comme dit Arendt, l'action, le premier pas de l'action, c'est toujours du langage. Il n'y a pas d'action qui ne commence en politique. Hein, sans langage. Je ne dis pas du travail ou des choses comme ça. Il y a encore. Il y a toujours... Enfin bon, ça, c'est un autre problème plus vaste. Mais c'est certain qu'en politique, il y a toujours... Le premier pas de la politique, c'est une proposition d'agir dans un sens ou dans un autre. Et c'est la première action, c'est l'action du langage. Et je pense que cette action-là porte les divisions qui sont dans le peuple. Moi, j'ai donné une définition... un peu décalé de la démocratie, c'est le peuple, c'est le pouvoir du peuple divisé par le peuple divisé pour le peuple divisé. C'est-à-dire que le réel de la société, c'est la division. On parlait du réel tout à l'heure. Et ce qui échappe à la représentation, c'est la division parce qu'elle est perpétuelle. Dès que Dieu sait que nous sommes relativement proches, et en même temps, on voit tout de suite qu'il y a une division entre nous trois, ou nous quatre, d'ailleurs. Oui. Donc c'est tout à fait normal. Et c'est, d'ailleurs, j'aimerais bien dire que la visualisation, c'est une divisualisation. Voilà, ça divise toujours. Même les visions divisent, donc voilà. Donc je pense... Comment ? Oui, une division, oui, c'est ça. Il faut mettre un trait d'union. Bon, mais... donc je reviens à l'expérience de base de la démocratie, qui est effectivement cette confrontation à un niveau tout à fait élémentaire des divisions, et c'est très concret. Les Gilets jaunes, moi j'ai eu des témoignages, j'ai eu l'occasion d'en parler dans un article, les Gilets jaunes se sont réunis par hasard, pour ainsi dire. Et quand ils avaient les premiers, ils ont témoigné que les premiers contacts qu'ils avaient sur les ronds-points, c'était une découverte de gens complètement différents. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Et c'est seulement au fur et à mesure de leur divergence et de la découverte de leur divergence que des positions, dans certains cas relativement rares, on peut amener à ce qui est cette fameuse assemblée des assemblées, qui a d'ailleurs accouché, ce qui n'a pas été fort mis en valeur par les instances officielles de la politique, par une série de revendications très précises. On leur a reproché souvent d'être vagues, de ne pas organiser, de ne pas savoir ce qu'ils voulaient. Tout ça est faux. Ils ont fait une assemblée des assemblées, bien sûr qu'ils n'étaient pas complète et qui ne représentait pas tout le monde, mais qui a tout de même accouché d'une série de revendications très précises. Bien. Maintenant, par rapport à ça, il est vrai que la démocratie directe, c'est un mythe. Déjà, puisqu'elle est divisée en elle-même quand elle a lieu, et puis surtout parce que par rapport aux nécessités de l'action, précisément, et surtout de l'action à un niveau... même pas international, national ou même régional, etc., elle n'est plus possible. D'où la nécessité de la délégation, c'est-à-dire de la nécessité de la mise en scène. Hein. La délégation, c'est une mise en scène. Alors c'est là-dessus que moi, donc je suis tout à fait d'accord qu'il n'y a pas de démocratie directe jusqu'au bout, parce que dans la démocratie, il n'y a pas que la division mise en jeu, il y a aussi la mise en scène de ces oppositions et de ces tentatives de relations. Hein. Parce que bien sûr, La division, c'est le réel, mais la société, le monde politique, c'est la relation. Sinon, il n'y a pas de monde politique. Mais même si la division guette tout le temps et ressurgit tout le temps. Et donc, c'est par rapport à ça que j'ai proposé, dans le titre du livre, que je peux dire un mot là-dessus, hein, j'ai proposé cette idée d'une assemblée double ou d'une double assemblée. C'est-à-dire une assemblée où la représentation traditionnelle des grandes options idéologiques hein, que nous connaissons aujourd'hui, enfin, qui sont un peu noyées, qui sont, bon, mais enfin, malgré tout, qui tiennent à l'option du libéralisme, qui tiennent à l'option du socialisme pour prendre de l'écologie, pour prendre les trois grandes options aujourd'hui, peut continuer à être porté par des partis qui seraient fidèles et le mettraient en scène, précisément, mais en même temps doit être, comment dire, non pas contrecarré, mais ravivé, oui, quelque chose comme un influx sanguin par des délégués des assemblées de base. Et donc une assemblée nationale, si on veut, ou même régionale, qui à la fois combinerait des représentants des partis et des délégués d'assemblée qui ont des mandats. Non, le mot impératif me gêne aussi énormément, ça je dois avouer. Un mandat peut être évidemment, il doit être un mandat de quelque chose. Mais qu'il soit impératif, ça me paraît, c'est bloquer la division, c'est bloquer le débat. Hein. À un échelon supérieur, il ne peut pas y avoir de mandat impératif. Sinon, à quoi ça sert de faire une assemblée supérieure? S'il y a une assemblée des assemblées, dans cette assemblée-là, le délégué, il faut qu'on lui laisse une part de débat et d'orientation nouvelle. On ne peut pas lui dire « Ah non, mais toi, tu dois défendre bon que ça ». Je pense que là-dessus, le mot impératif est trop lourd. Mais par contre, évidemment, il faut des mandats précis. Ça, c'est clair. Il ne s'agit pas d'avoir des mandats qui seraient complètement vagues, bien sûr. Donc des mandats précis... Je reste partisan, moi, précisément du contrôle de ces mandats et donc de la possibilité d'enlever cette délégation. Hein, donc je pense que donc une combinaison de l'Assemblée, dans l'Assemblée législative, qui est vraiment le nœud de la démocratie pour moi, hein, de ces représentants des partis qui portent les grandes options, qui portent les grandes responsabilités aussi, et de délégués des assemblées de base qui, eux, apporteraient le 109 et la divergence, mais une divergence qui n'est pas idéologisée, qui est issue de débats initiaux, de débats... oui, initiaux au sens d'initiative, au sens où ils sont initiés à la base de la société. Je pense qu'une assemblée qui combine les délégués et les représentants serait vraiment une solution extraordinaire pour la société et pour les impasses de la représentation, qui n'abolirait évidemment pas la représentation, qui n'abolirait pas la mise en jeu ni la mise en scène. Voilà. Il faut les deux. Il faut la mise en jeu et la mise en scène. Je pense que... D'ailleurs, il y a un mot que j'aime beaucoup. Puisque le réel, c'est la division, je pense que la solution aux grandes divisions, c'est toujours l'alternance. L'alternance, c'est-à-dire... non pas l'alternance gouvernementale, ça, évidemment, on sait bien comme c'est piégé, mais l'alternance presque... J'emploie le mot de façon un peu spéciale, une alternance presque simultanée. C'est vrai pour l'égalité et la liberté. Hein, il s'agit de pratiquer l'alternance d'égalité et de liberté. C'est vrai pour la division et la relation. C'est vrai pour... le réel et sa représentation et le langage, voilà, c'est vrai pour aussi la légitimité et l'efficacité. Hein? Il faut une alternance des deux au sens où il faut tenir les deux bouts de la division. Les grandes divisions que je viens de citer, qui pour moi sont les principales dans toute société, en tout cas dans nos sociétés, ce sont des divisions qui doivent être mises en jeu de façon alternée, c'est-à-dire sans lâcher un des deux bouts. Il n'y a pas à préférer l'égalité à la liberté, il n'y a pas à préférer la légitimité à l'efficacité, et vice-versa, etc., etc. Voilà.
Merci. En vous entendant, je me disais au fond que vous... C'est une tentative de résoudre un problème qui est lié, malgré tout, à cette question de la division du travail social dont on parlait tout à l'heure. Parce que vous dites il faut garder cette représentation classique avec les grands blocs idéologiques. Évidemment, ces grands blocs idéologiques, ils évoluent au fil du temps, mais en fait, ils évoluent assez, assez lentement. Et ils ont besoin d'être irrigués par du sang neuf, par des gens qui seraient plus en contact, au fond, avec les problèmes politiques quotidiens que rencontrent des citoyens ordinaires qui ne font pas de la politique leur, leur métier. Ça me renvoie au mouvement des Gilets jaunes. Au fond, parmi toutes les choses que j'ai pu lire sur ce mouvement, l'une des plus intéressantes à mes yeux était liée à un travail qui avait été démarré de façon antérieure, mais qui permettait, si les gouvernants avaient des porte-oreilles et pas seulement des porte-paroles, d'anticiper au fond ce mouvement. C'est le travail que Julien Fretel et Michel Auferlet ont fait sur le courrier adressé au président de la République en France. Ils ont analysé des milliers de lettres envoyées par les citoyens français au président de la République. Et ce qui est fascinant, il y a beaucoup de choses fascinantes dans ce qu'ils ont lu, mais ce qui est fascinant, c'est la manière dont le service du courrier à l'Élysée est organisé de telle façon à classer les lettres en trois catégories. Les lettres des gens connus, bon, hop, on les met de côté, on va leur répondre personnellement. Bon. Mais ça, c'est pas très intéressant, on s'en doute. Mais c'est surtout les deux autres catégories. Les lettres qui sont considérées comme des lettres politiques. Et puis les lettres qui sont pas politiques. Alors les lettres politiques, c'est quoi? Ce sont des lettres de citoyens qui adorent être dans les audiences télévisées, ou peut-être même font partie du public, et qui adorent jouer aux éditorialistes. Et donc, ils font des lettres pour dire, Monsieur le Président, moi, à votre place, je ferai ça, je m'allierai avec un tel. Donc, ils jouent à Christophe Barbier. Ils font des lettres comme ça. Et donc, le cabinet du président de la République est très attentif à ça. Ils en font une sélection. Ils en font remonter quelques-unes au président de la République pour qu'il hume l'air du temps politique. Bon. Mais les autres lettres qui sont disqualifiées comme lettres politiques, qui sont des lettres désespérées. En règle générale, les gens écrivent au président de la République en dernier ressort, après avoir écrit à leurs députés, à leurs maires, aux administrations, parce qu'ils ont un problème énorme de santé, un problème de chômage, un problème familial, etc. Ces lettres sont envoyées aux différents ministères concernés. Mais les professionnels de la politique sont incapables de voir que les plus politiques de ces lettres, ce sont évidemment celles-là. Et au fond, ça m'a fait saisir à quel point ce mouvement des Gilets jaunes essayait de traduire ses préoccupations et surtout de les faire requalifier comme des préoccupations politiques, les faire requalifier à la fois par les élus, mais par les hauts fonctionnaires, par les journalistes, par tous ceux qui ont pour métier de décider ce qui est politique et ce qui n'est pas politique. Et au fond, ce mouvement était la manifestation de la crise de la définition du politique, qui est entraînée par cette division du travail. Donc moi, ce que je vois dans votre solution, c'est une tentative de bricolage institutionnel qui permettrait d'avoir un système, comment dire, un peu homéostatique, enfin, qui permet de remettre de l'équilibre, de pas trop s'éloigner du politique, de faire attention à la manière dont on définit le politique, en fait, et de trouver des institutions capables de faire ça. C'est une proposition que j'interprète comme ça. Mais je ne sais pas si, par rapport aux Gilets jaunes, vous partagez cette...
Oui, oui. J'avais très envie de répondre et de prêcher pour ma chapelle sur le mandat impératif et sa capacité à pouvoir gérer aussi les dissensions. Ouais. Mais c'est très intéressant parce que je ne connaissais pas en fait ce système de lettres en France. J'aurais peut-être dû le savoir. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça a même été internalisé, que leurs soucis ne sont pas politiques, dans le sens où quelque chose qu'on entend tout le temps chez les Gilets jaunes, ou qu'on entend toujours, c'est « Ah non, mais on n'est pas politique, hein. » Mais ce que vous faites est éminemment politique. Mais en fait, ce qu'ils entendent par politique, c'est partisan. Donc, petit à petit, ils ont bougé de « on est apolitique » à « on est apartisan », en ayant fait ce travail là-dessus, en sachant qu'en fait, ce qu'ils critiquaient, c'était la politique partisane, la politique représentative telle qu'elle était faite. Pour moi, ce qui est vraiment intéressant avec les Gilets jaunes, c'est que, ces mécontentements par rapport à la manière dont les affaires publiques étaient gérées, elles sont plus restées dans chacun chez soi ou éventuellement au bar avec les copains ou quoi. En fait, ça a été mis sur la place publique, mais littéralement, ça a été mis sur le rond-point, ça a été mis dans les places et ça a été délibéré en assemblée. Et c'est là que c'est un élément extrêmement important, c'est que c'est des gens qui n'ont jamais la plupart donc, sont primo-manifestants, primo-militants, qui n'ont jamais discuté en groupe, en assemblée, de ce qu'il et elle voulaient vraiment. Et donc ça, c'est une manière de... non seulement ils ont pu requalifier en politique leur revendications, mais ils ont surtout pu les délibérer entre eux et réapprendre quelque chose qui est que, en fait, la politique, ça concerne tout le monde et que c'est pas un métier, mais qu'on peut le faire avec ses voisins, avec ses voisines, et qu'en fait, et vraiment se réapproprier, parce qu'on leur disait à la base... Oui, mais vous pouvez pas gérer ça. Enfin, c'est comme ça qu'ils l'ont internalisé. Et il y a vraiment ce changement de mentalité qui s'est fait de se dire, en fait, non, la politique, ça nous concerne et on va la faire entre nous. Donc ça, c'est vraiment un point fondamental. Ils ont poussé, mais je veux dire, moi, à l'UNIF, en théorie normative, en théorie politique, on essaie vraiment de pousser très loin le système d'objection, réponse aux objections, etc. Donc, par exemple, typiquement, l'objection du référendum ou comment est-ce qu'on fait avec les mandats impératifs, etc. Moi, j'ai poussé extrêmement... j'ai poussé toute seule derrière mon ordinateur. Et eux, mais sur certains points, typiquement, par exemple, ils ont rédigé une constitution locale pour voir comment ils géraient l'Assemblée. Mais ils ont été 15 fois plus loin que ce que moi j'ai été. J'étais halluciné par ça. Il y a eu vraiment un travail énorme à ce niveau-là. Et du coup, moi, c'est une des questions pour quand même parler de la proposition d'Éric. C'est pas une question piège, mais c'est vraiment une vraie question à la fois sincère et en même temps un peu coinçante, je pense. C'est en fait quel mouvement pour cette proposition politique, dans le sens où, on va dire, pour moi, une proposition de théorie politique, il y a énormément de choses qui sont très intéressantes dans la vie des idées, mais s'il n'y a pas un mouvement pour les porter, en quelque sorte, ça, pour moi, on va continuer à en parler, ça va être super intéressant, mais dans le sens où quel mouvement va pouvoir porter ça, dans le sens où les Gilets jaunes ont porté un certain mouvement, une certaine revendication démocratique face à ça. Et pour moi, et je pense que ça, c'est un des points communs, parce que moi, je n'ai pas mentionné les points communs qu'on avait, mais c'est le fait de se référer, je pense, à la pratique des acteurs et des actrices de terrain. Et ça, c'est quelque chose qui, dans votre livre, est hyper, hyper présent. Mais donc, vraiment, c'est cette question, quel mouvement pour porter ça, mais pas que d'un point de vue de légitimité, parce que là, j'ai l'air de titiller sur la légitimité, en mode, le mien est un mouvement, donc ma théorie est mieux, c'est pas ça du tout. C'est en fait, mais quel rapport de force pour le faire aussi, dans le sens où une proposition normative... Il faut le rapport de force, il faut le mouvement qui va lutter pour cette proposition normative-là. Et donc, c'est, en fait, dans ce sens-là, c'est une vraie question aussi, c'est quelles sont vos analyses dans la société d'identification, de tendances qui pourraient potentiellement aller vers ça.
Ah ben là, la réponse est simple, hein. c'est la participation. Il y a des tendances de base, comme vous avez mis en valeur, qui me préoccupent autant que vous, les expériences communales et puis l'expérience des Gilets jaunes, etc., et bien d'autres, même les assemblées libres dans les mouvements, etc., dans les mouvements de révolte. Mais il y a tout simplement ce que la politique elle-même, la politique habituelle, professionnelle, a ressenti, c'est la participation. Donc, partout, les politiciens nous disent... Et ils le mettent en jeu, d'ailleurs. Il ne faut pas non plus être trop caricatural avec les politiciens. Surtout au niveau local, il y a énormément d'instances de participation. Ben, déjà, il y a le Conseil économique et social. Je veux dire, c'est une immense participation qui n'est pas législative. C'est ça, la grande différence. Mais donc la critique qu'on peut faire de la participation, c'est qu'elle est purement délibérative. Et que donc elle tombe toujours sur la fameuse critique un peu... slogan, mais qui a tout de même une forte part de vrai, hein, de la démocratie, qui est différence entre démocratie et dictature. En dictature, ferme ta gueule. En démocratie, cause toujours. Et donc, effectivement, cause toujours. Non. Mais bien sûr, le Conseil économique et social, où les syndicats et les patrons sont réunis, c'est pas du cause toujours, tout de même. Il faut pas être sérieux. Le gouvernement peut pas balayer leurs décisions d'un revers de main. Donc il y a une tendance chez les hommes politiques professionnels à reconnaître qu'il leur manque une participation de la base. Sauf que cette participation, et c'est ça le point qu'il faut faire, c'est qu'il faut absolument les pousser à ce qu'elles deviennent législatives. Et pas seulement consultative, évidemment. Tout le point est là. Donc la double assemblée, elle est simplement une assemblée de participation, mais de participation législative et pas seulement consultative, et qui donc a un réel pouvoir. Tant que le pouvoir est uniquement de la parole, bien sûr, quand c'est des syndicats et des patrons qui se mettent d'accord ensemble, quelle que soit la non-représentativité des syndicats, surtout en France, malgré tout, ça a un poids énorme. Mais en dehors de ça, à l'échelon communal, régional, à l'échelon européen, il n'y a pas l'équivalent de ça. Hein, et donc, je pense que c'est le levier, c'est précisément d'inciter la politique qui est consciente de sa crise, parce qu'on peut tout même pas, ils peuvent pas nier, même la politique professionnelle est consciente de sa crise, de pousser en avant la participation vers la législation. Donc, la solution d'une double assemblée, c'était pas une solution miracle que je sors de ma poche, etc. Parce que d'abord, je ne sais pas sur quelle modalité elle se fera. Et elle doit être discutée par des milliers de gens et être, par exemple, référendée. Ce serait une des propositions de double assemblée pourrait passer par un référendum. Donc tout ça, ça peut être mis en jeu de façon imprévisible. Hein. Donc ce n'est pas un théoricien dans son coin ou un philosophe de la politique qui va dire comment il faut faire. C'est simplement une indication que je donne là, mais une indication qui s'appuie sur ce double mouvement, d'une part des mouvements de base, et d'autre part de la nécessité de participation que les hommes politiques eux-mêmes ont ressentie.
Jean-Yves Prochaire, c'est intéressant parce que c'est vrai que la participation politique, comme on dit, comme remède à ces crises dont on parle, mis en place depuis longtemps, est devenu, au fond, un autre aspect de la professionnalisation politique. C'est devenu un business, pour le dire autrement. Un business ou des recettes. On parlait tout à l'heure du grand débat après les Gilets jaunes, mais il y a eu aussi la Convention pour le climat, qui est à la fois une expérience intéressante, mais qui n'est pas... décisionnel. Au contraire, ça produit même des effets assez dramatiques, probablement, de ce point de vue-là. Donc, cette question de l'organisation de la participation, elle est compliquée. Est-ce que c'est pas ça ? Et je voulais vous poser la question par rapport à la question de la puissance publique dont vous parliez tout à l'heure, parce que c'est aussi ce souci peut-être de la puissance publique qui est mis en œuvre dans la solution d'Éric Clément, c'est-à-dire l'idée quand même d'arriver à décider. Depuis hier, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux d'étudiants d'AgroParisTech, je ne sais pas si vous avez vu ça, de la grande école d'agronomie de Paris, qui, lors de la cérémonie de remise des diplômes, sont intervenus, une dizaine d'entre eux et elles, pour dire qu'ils bifurquaient, qu'ils n'allaient pas faire les métiers pour lesquels ils avaient été formés, qu'ils n'allaient pas travailler dans les grandes agro-industries, etc., pour toutes les raisons qu'ils ont évoquées, et qu'ils allaient travailler au plan local. Et je voyais le commentaire intéressant sur Twitter d'un philosophe de la politique qui s'intéresse à ces questions d'écologie et d'économie, qui est Pierre Charbonnier. Et Pierre disait, c'est intéressant, mais c'est dommage. Il faudrait qu'ils s'emparent de la question de la planification écologique. Il faudrait qu'ils s'emparent de la possibilité. Avec la formation qu'ils ont, c'est bien joli, le retour à la terre, mais je veux dire, on aurait bien besoin d'eux aussi dans les ministères ou dans là où on peut avoir du pouvoir et où on peut engager cette puissance publique au plan national. Et on a l'impression aujourd'hui que c'est comme si des gens pensaient, mais on peut les comprendre, qu'on pouvait concilier au plan local le bonheur privé et l'action publique, comme aurait dit Albert Hirschman, en fait, alors qu'on nous a appris qu'il fallait choisir entre les deux.
Ça fait une question, tellement j'ai envie de répondre que je suis d'accord, mais oui, pour rebondir un peu sur tout ce qui vient d'être dit, je pense que l'intérêt de la proposition de la double assemblée, telle que la présente Éric, c'est effectivement de venir compliquer la représentation partisane par une représentation d'intérêts sociaux. Et donc ça suppose qu'on fasse finalement le pari, parce qu'après tout, il y a toujours eu ce sentiment que quelque chose n'était pas suffisant dans la représentation au suffrage universel. On peut penser à Durkheim qui aurait souhaité, et Kelsen aussi d'ailleurs, une deuxième chambre professionnelle où seraient représentés les syndicats en tant que tels, de manière à ce qu'il y ait une représentation des groupes sociaux en tant que groupes sociaux et pas seulement des individus en tant qu'individus. Bon, et on a une autre proposition qui circule et que je trouve très intéressante, qui est l'idée du Sénat tiré au sort. Bon, sachant que le tirage au sort est un mode de représentation d'ailleurs. Hein, l'idée, bon, mais paradoxalement, il y a le défaut dans l'idée du Sénat tiré au sort qu'on réactive finalement une conception, me semble-t-il, très expertocratique de la démocratie. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est faire un Sénat tiré au sort, c'est dire on va prendre justement des citoyens tirés au sort, et donc comme ils sont tirés au sort, c'est des vrais experts indépendants en fait. Toutes les conditions de l'expert indépendant sont réunies, ils ne sont pas partisans, statistiquement ça va être représentatif, et puis on va les isoler, on va faire défiler par eux les experts qui débattent, et on va produire des experts authentiques qui vont prendre des décisions d'expertise bien fondées démocratiquement. Alors c'est à la fois très juste et très intéressant, mais ça suppose quand même que les agendas politiques soient définis de l'extérieur. Donc ça suppose que...
Il y a des experts qui décident qui sont les experts.
Voilà. Et puis qu'également, en fait, l'agenda politique soit porté par l'Assemblée élue. Et en fait, on va utiliser... Et c'est ce qui a fait en partie capoter la Convention pour le climat, justement. C'est qu'au lieu de dire « Ah, ben, c'est des bonnes décisions », on a dit « Bon, ben, vous êtes gentils, vous avez bien travaillé. Et puis, cette proposition-là, elle est pas mal. Et puis, on va oublier le reste. » Bon. Et c'est la vraie difficulté. Mais je pense que la difficulté, elle est plus fondamentale lorsque vraiment... On va constituer en fait des chambres d'experts spécifiques, alors, ce qui est un progrès, hein, mais ce qui ne recompose pas l'agenda. Donc je pense que l'idée de la double assemblée que vous proposeriez, ce qu'elle a vraiment de très intéressant, c'est qu'elle dépasse cette espèce de blocage en disant non, on va introduire dans l'assemblée des gens qui viennent changer l'agenda politique à partir d'expériences politiques spécifiques. Et donc effectivement, ça me semble une bonne idée. Enfin, c'est extrêmement intéressant. Et c'est extrêmement fort. Je pense que le problème, mais ça, c'est pas une objection, c'est vraiment une question qu'il faut résoudre, c'est bon, qui va participer, qui va être dans ces assemblées. C'est-à-dire que y a un risque élitiste, en fait, hein, qui va être, mais qui est déjà présent avec les partis, hein, qui va être, vont être mobilisés ceux qui ont envie de participer. On sait très bien que, par exemple, toutes les villes qui ont poussé très loin les expériences de budget participatif, par exemple, ou autre, elles ont un problème qui est que les gens n'ont pas le temps, les gens n'ont pas envie, ça les ennuie. Et pour finir, on a un petit public de gens sur politisé, bon,
c'est la grosse objection. Hein. Il y a eu jusqu'à des 90% de gens qui refusaient, quand ils étaient tirés au sort, de participer. Ouais. Et donc, à ce moment-là, les 10% qui restent, c'est qui? C'est des gens qui sont militants. Donc là, ça fausse même l'expertise. Là.
Mais en même temps, je pense que c'est un point intéressant parce que c'est l'idée de la douce assemblée, me semble-t-il, ce qu'elle prend en acte. C'est le fait que, justement, on n'est plus dans la démocratie des partis et les partis ne jouent plus leur rôle. Ils ne sont plus des intellectuels organiques de certaines classes sociales. Enfin bon, c'est très idéalisé hein, de dire les partis étaient des intellectuels organiques de certains intérêts sociaux. Donc on va pas non plus fantasmer le passé. Mais enfin, il y avait quand même quelque chose comme cette idée-là, comme principe de légitimité. Et ça, c'est bon. Là, c'est vraiment complètement en panne. Et donc effectivement, cette idée, c'est de poser la question. Qui prend le relais. Bon, après, je pense que l'autre problème auquel on est confronté, mais là, c'est pas une objection, c'est lié à notre situation sociale spécifique, c'est que ce qu'on peut appeler la révolution libérale a réussi quand même. Elle a produit une population où nous sommes des sujets néolibéraux et où nous avons spontanément des révoltes de sujets néolibéraux. Et toute la difficulté, c'est que ça fait que beaucoup de révoltes, et je pense que c'est quand même vrai aussi des Gilets jaunes en partie, ont une tendance à être des révoltes libertariennes, assez contradictoires. C'est-à-dire, on se révolte contre le néolibéralisme dans des schèmes néolibéraux. C'est d'ailleurs un des points que développait Cyril Lemieux dans l'excellent article d'AOC, quand il disait, c'est frappant, somme toute, comme la France insoumise fonctionne comme une entreprise néolibérale, en réalité. Voilà. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas une objection, c'est une difficulté très concrète. Alors, ce qui fait que, tout en étant prudent, j'ai pas la phobie du référendum, comme beaucoup de mes amis, contrairement à beaucoup de mes amis sociodémocrates ou pro-européens. Par exemple, j'ai énormément d'accord avec Céline Spector, mais quand j'en parle avec elle, je lui dis, moi, je pense que ça serait une bonne idée des référendums européens, et elle me dit...
On a vu ce que ça a fait au Royaume-Uni. Hein.
C'est le problème. C'est... Dire, attention. Alors,
justement, en Suisse, ça fonctionne de façon multiple.
Mon point étant qu'il faut, il faut pas se tromper. C'est-à-dire que c'est pas le RIC. Par exemple, pour moi, un bon exemple de référendum européen qu'on pourrait organiser, ce serait est-ce qu'on interdit tous les voyages en avion lorsqu'un trajet en train de moins de 5 heures est possible. Voilà. Il faudrait en fait des sujets comme ça. Et ça répond pas complètement. Mais sur la question des forces qui portent, je pense qu'un des intérêts de ce genre de pratique référendaire, c'est que ça déclenche des forces, ça déclenche des mobilisations. Et ça peut servir d'embrayeur.
Merci. Je pense qu'il est temps qu'on vous passe le micro. Oui.
Je me lance et pour ne pas être trop dans la salle, je me mets comme cela. J'ai failli intervenir au moment où vous avez évoqué le théâtre, la scène. Vous avez parlé, vous, de mise en scène. C'est effectivement un argument qui est souvent avancé pour parler de la représentation politique. Il y a là une question très importante, parce que le théâtre, l'artiste dramatique, il se donne un rôle. Il y a une convention qui est acceptée par tous pour qu'il se donne un rôle. Et lorsqu'il se donne un rôle, d'ailleurs, parce que c'est la meilleure définition possible du théâtre, c'est d'une certaine façon une certaine pratique décidée, mais une certaine pratique de la folie. Il est ailleurs, il passe ailleurs, il se déplace vers ailleurs. C'est un peu différent, vous avez utilisé le terme de mise en scène, c'est un peu différent s'agissant de la mise en scène. Moi, je m'interroge, je vous dis que le jeu dramatique, l'art dramatique, y compris dans les toutes dernières séries sur Arte, l'artiste dramatique, il se divise, mais il se donne à une sorte de folie. Je veux bien, c'est vrai que dans le monde politique, dans le monde de la représentation, il peut y avoir une dimension théâtrale qui est une destruction de la notion même du théâtre. C'est une trahison du théâtre. Et d'ailleurs, n'oubliez pas cette chose, c'est que le mot comédien ou le mot clown, quand on veut parler d'un homme, d'une femme ou d'un homme politique qui en fait trop, que dit-on ? C'est un acteur. Oui, c'est très compliqué. Peut-être que le mal est là. Et lorsque vous dites, vous rappelez cette chose assez terrible, vous, concernant les politiciens professionnels et que les journalistes, les hauts fonctionnaires dont Macron veut se séparer puisqu'il veut faire appel et qu'il fait appel à des agences privées, lorsque vous dites qu'ils entrent dans le monde des politiciens professionnels, il y a peut-être aussi cette dimension-là du théâtre à la télévision, de cette expressivité de soi. Mais l'artiste dramatique n'est pas là avec le but de l'expressivité lui-même. Il est là pour la division, il est là pour une folie assurée, il est là aussi pour pratiquer et donner le langage avec aussi ce qui est à la naissance du langage. Autrement, il n'y a pas de présence. Autrement, il n'y a pas d'artiste dramatique. Si un artiste dramatique n'est là que pour dire un texte, il n'y a pas de théâtre. Reconnaissez qu'il y a quand même une différence flagrante entre les deux. Voilà.
Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir.
Vous posez la question de l'incarnation.
Non, l'artiste dramatique, enfin, il est...
Ce qui manque, c'est...
C'est
décor. Les acteurs sont décors. La différence entre, effectivement, un dialogue que je lirais sur une feuille de papier et ce que vous évoquez, c'est le fait que c'est d'un corps qui porte la parole.
Mais l'homme politique aussi, c'est un
corps. Ah ben oui, mais bon, voilà. Enfin, je vois pas au-delà de ce que... Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais précisément, l'incarnation est d'autant plus forte si elle n'est pas confisquée par l'idéologie partisane. Vous savez très bien, j'aurais pu dire au début aussi, quand on m'a demandé d'écrire la crise des partis. Un membre d'un parti, c'est quelqu'un qui n'a aucune autonomie, pratiquement. Il dépend complètement du comité central. Tous les partis fonctionnent comme des comités centraux. On critique le Parti communiste et son fonctionnement. Mais tous les partis ont un comité central, avec un président qui est omnipotent, etc. Quel que soit le parti, c'est toujours comme ça, c'est hiérarchique. Bookchin vise très fort la hiérarchie. Et donc voilà. Donc je pense que l'incarnation est effectivement nécessaire. Et c'est ça l'apport aussi des délégués. Un délégué, il est incarné. Il n'est pas seulement... Il n'a pas oublié son corps, c'est-à-dire son expérience personnelle. Parce qu'un corps humain, c'est un corps de langage. J'y reviendrai tout, on y reviendra toujours. Voilà.
Je pense qu'il y a une question. Oui, si je peux ajouter juste une chose, je pense que les comités centraux, etc., fonctionnent plus tout à fait de la même façon qu'autrefois, mais il y a d'autres dispositifs. C'est-à-dire que ce que montre très bien le papier de Cyril Lemieux dont parlait Jean-Yves Pranchère sur la purification, au fond, sur le fait qu'on ne veut voir qu'une tête dans chacun des partis. Et je pense que les médias jouent un rôle très très important dans ce processus de purification. On en a des exemples en ce moment extraordinaires, puisque avec ces journalistes qui ne veulent pas comprendre le mécanisme d'alliance à gauche et qui en permanence demandent aux différents protagonistes de cette alliance. Mais enfin, il y a 3 semaines, vous disiez pique-pendre d'un tel. Et donc, c'est que l'idée même de l'alliance ou du compromis est devenu absolument intolérable dans l'espace public, en fait. Et ils sont rappelés à l'ordre, non pas par des instances disciplinaires des partis, mais ils sont rappelés à l'ordre par les agences d'exécution que sont les médias et le journalisme politique quand il est pratiqué de cette manière, en fait. Donc ça me semble une nouveauté. Monsieur.
Oui, je voulais poursuivre. Bonjour, c'était passionnant. En fait, je voulais poursuivre par rapport à l'incarnation, dans le débat qui était fort intéressant, je trouve qu'il manquait justement le rapport à l'individu, l'individualité, le désir. Vous évoquiez Lacan, M. Clemens. Donc, c'est le moteur quand même du processus aussi de démocratique. Et le désir est porté justement par un corps, par un individu, par une personne qui croit et qui y va et qui essaie de convaincre les autres. Pour transformer l'espace public et l'espace démocratique, qui est que tous souhaitent, il faut aussi, par ailleurs, ce désir et qui se transforme en éducation. Et je vois éducation, narration et incarnation qui sera l'aboutissement de ce renouvellement démocratique. Alors, quid de justement du citoyen, de l'individu qui veut y croire ou qui y croit et qui souhaite justement cette transformation entre ses désirs personnels et les désirs collectifs. C'est là aussi se joue le rapport à la démocratie. En tout cas, je voulais vous entendre à cet égard.
Oui, alors c'est une question lourde. Du coup, je vais peut-être, pour tenter de répondre, rebondir sur Lacan, parce que Eric me disait, mais tu as un rapport à Lacan. Et en fait, je suis convaincu. Voilà, je suis convaincu qu'on comprend mal le fort si on le lit pas à partir de la différence lacanienne entre l'imaginaire et le symbolique. Il se trouve qu'on sait que le fort a suivi tous les séminaires de Lacan et que Lacan était présent à la soutenance de thèse de le fort, donc le lien n'est pas imaginaire ou controuvé. Le point que je voudrais introduire ici, c'est le suivant. Il y a beaucoup de gens qui disent le fort, vous me pardonnez cette digression philologique, mais je vais revenir au sujet, en disant le fort prétend que finalement le totalitarisme naît de l'intérieur de la démocratie à cause de la puissance de l'un, etc. Et puis quand on lit le grand livre de Le Fort sur le communisme qui s'appelle La Complication, Le Fort veille à dire non, ça c'est un contresens, et il souligne, il dit le totalitarisme ne naît pas de l'intérieur de la démocratie. Et alors comment comprendre ça? Alors mon hypothèse, c'est parce que justement la démocratie, c'est d'abord un ordre symbolique. Et c'est un ordre symbolique, comme le dit Lefort, qui fonctionne à la désintrication de la loi, du pouvoir, du savoir et du droit. Et cet ordre symbolique en tant que tel, justement parce qu'il est une désintrication des ordres, il ne donne pas prise au totalitarisme. Donc le totalitarisme ne surgit pas de l'intérieur de l'ordre symbolique de la démocratie. Mais la démocratie, ce n'est pas seulement un ordre symbolique, c'est aussi un imaginaire. Et cet imaginaire, c'est l'imaginaire du peuple souverain et de la souveraineté du peuple. Alors l'idée géniale de Lefort, ça a été de dire, en fait, la vraie traduction démocratique de l'idée de souveraineté du peuple, c'est que personne n'est le peuple, donc personne ne peut dire « je suis le peuple souverain », et la traduction de la souveraineté du peuple, c'est le fait que le pouvoir, le lieu du pouvoir reste un lieu vide, inappropriable, justement parce que personne ne peut s'approprier la figure du peuple souverain, ce qui permet de conserver l'imaginaire de la souveraineté du peuple tout en le désactivant. Mais ça n'empêche pas que, effectivement, le désir démocratique, j'ai envie de dire, il suppose un affect qu'on va appeler populiste. Parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Il suppose un affect populiste qui est un affect d'identification au peuple et d'identification au peuple en tant qu'il est puissant. Donc il y a dans la démocratie un élément populiste non réductible, mais dont on doit poser la question qu'est-ce qu'on en fait, comment on le canalise et comment justement on en fait un vecteur dynamique et pas un vecteur de fascination par la figure de l'unité. Hein. C'est-à-dire comment est-ce qu'on empêche l'imaginaire de la démocratie de détruire l'ordre symbolique de la démocratie, de devenir psychotique, de ce point de vue-là, si j'ose dire. Hein. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait de cette image du peuple, hein, et comment véritablement on l'investit. Bon. Mais il y a bien ça dans la démocratie. Hein, on pourrait dire un désir d'être peuple. Et je dirais que tout un des aspects de la difficulté présente, c'est à bien des égards la question de l'image du peuple. Qu'est-ce qu'on entend par peuple ? Et c'est ce qui rend les discours sur le populisme si confus à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on peut très bien entendre le peuple de manière... c'est ce que disait Eric au début. Le peuple, c'est l'ensemble de ceux qui ne veulent pas être dominés. Bon. On peut dire aussi le peuple, c'est l'ensemble de ceux qui ne gouvernent pas. C'est la définition classique. On la trouve chez Saint-Just, on la trouve chez Durkheim, on la trouve chez Carl Schmitt, qui pourtant n'ont pas grand-chose en commun tous les trois, donc c'est intéressant qu'ils aient la même définition. Et on pourrait dire aussi, et c'est là que les choses se compliquent, le peuple, c'est l'ensemble de ceux qui ne se sentent pas représentés. Et la difficulté étant que si on définit le peuple comme ça, il peut y avoir des captations de droite de l'affect populiste. Voilà. Et donc ça serait ça ma réponse. Et c'est pas un plaidoyer pour le populisme de gauche. Hein. Je pense au contraire que les stratégies populistes sont des erreurs parce qu'elles ont quelque chose de régressif, c'est-à-dire qu'elles nous ramènent à une image du peuple qui est anachronique. Ce sont des stratégies qui sont fondées sur des références historiques, alors j'ai envie de dire légitimes, démocratiques, mais anciennes, qui correspondent soit à des situations où le peuple existe comme homogénéité sociale effective, populisme russe, soit où il existe comme multitude articulée, populisme états-unien, soit il existe comme plèbe qui a besoin de l'appui de l'armée pour forcer les blocages oligarchiques d'une société solidifiée, populisme latino-américain. Le problème, c'est que nous ne sommes plus des peuples en ce sens-là. Nous ne vivons plus à l'époque des Misérables de Hugo. Nous sommes des sociétés articulées. Et le risque est que l'image du peuple produite par le populisme ait des effets régressifs en nous faisant fantasmer, justement, en fait, en jouant paradoxalement le jeu de la décomposition néolibérale. Hein, et le risque est que le populisme fonctionne simplement... Alors, on va dire ça comme ça. Non pas comme un encouragement du désir démocratique, mais simplement comme un agrégateur des colères non filtrées. Bon. Et c'est ça le problème. Il faudrait passer, effectivement, quelque chose qui soit une politique misant sur des affects du désir démocratique, qui sont là aussi, hein, en partie, dans les mouvements qu'on appelle populistes, ou du moins dans ceux qu'on serait le plus en droit d'appeler populistes. Hein. Je pense que toutes les appellations de populisme appelées à l'extrême droite sont complètement erronées. Hein. Bon, qui sont là, mais qui ne doivent pas prendre la forme de colère agrégée. Voilà. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais c'est tout ce que j'arrive à dire en improvisant. Là.
Merci. Une autre question ?
Oui. Ben d'abord, merci à tous les trois. En fait, je reviens un peu sur ce qui vient d'être dit, mais je repars de ce qui a été dit tantôt. Et je suis antiquisante à la base, et donc j'arrive avec mes marottes, mais vous me pardonnerez. Je reviens sur la difficulté que Jean-Yves soulevait concernant l'idée que le projet néolibéral, d'une certaine manière, a déjà réussi, et donc on est déjà des sujets néolibéraux. Et je pense que ça pose une difficulté fondamentale pour penser la démocratie aujourd'hui. Et vraiment, je crois qu'il faut se poser la question de comment on va en sortir, parce que tant qu'on n'a pas répondu à ça... bref. Donc, tout ça pour dire que je voulais revenir sur ce que Sixtine, tu soulevais de... Alors, j'ai pas saisi le nom du chercheur, mais je serais intéressée sur l'idée que le démos, c'est l'assemblée et c'est pas le peuple. Alors moi, je pensais aux travaux de Rancière là-dessus, parce que Rancière souligne le fait qu'en grec, le mot démos, donc qui veut dire peuple, a deux sens, et il peut désigner la partie la plus pauvre de la population, qui justement a du mal à se faire représenter, y compris à l'Assemblée. Et parvient ensuite à signifier peuple au sens d'assemblée, comme tu dis. Mais donc, moi, ce que je voudrais interroger, et que je trouve était un peu, pas absent, mais enfin, on pourrait plus le souligner dans vos exposés ce soir, d'un espèce de sens historique, c'est-à-dire, je pense que ce qu'il faut penser, c'est ce passage-là. Et je vois pas la réponse, parce que peut-être il n'y a pas de réponse, mais je veux dire, si ce n'est dans l'idée que les institutions s'alimentent elles-mêmes, et que donc, je vois... Enfin, le communalisme me frustre de ce point de vue-là, de supposer les bases qu'il lui faudrait pour réussir. Mais qu'il ne peut... Enfin, tu vois ce que je veux dire ?
Tu peux juste élaborer sur ce que tu...
Mais j'improvise, là. Mais par exemple, je reviens à Athènes, parce que c'est ça que je connais, disons. Je pense qu'on ne peut pas penser l'assemblée athénienne sans, en la désolidarisant de d'autres institutions qui sont des institutions politiques, comme par exemple les panathénées, les chœurs. Pour résumer l'idée que non seulement les citoyens sont tirés au sort régulièrement et c'est obligatoire de participer pour assurer des mandats impératifs de délégués, mais qui sont en fait des charges lourdes et qui sont embêtantes et on n'est pas réjouis d'être tiré au sort, mais on le fait quand même parce qu'en fait c'est une honte de dire non. Mais on est aussi tiré au sort parfois pour participer à des chœurs, et notamment aux chœurs tragiques. Les pièces de Sophocle, elles sont jouées par des citoyens, et des citoyens adultes, sans doute de tous les âges, qui pendant un an doivent quitter tout. Donc ça veut dire qu'on peut être paysan et devoir quitter son champ, et donc ça marche entre autres parce qu'on a une femme, un esclave et un étranger qui travaillent pour nous. Et c'est une question. Et donc, pendant un an, on peut mettre en suspens sa vie, entamer une réflexion, incarner Antigone, incarner un cœur qui pose des vraies questions politiques fondamentales. Et je ne vois pas l'équivalent de ça dans le communalisme aujourd'hui. Et je me demande si... est-ce que c'est moi qui suis aveugle sur certaines choses, ou est-ce que ce n'est pas une vraie difficulté aujourd'hui, mais qui est une objection majeure, du coup ? Malheureusement, quoi. Voilà. Ouais. Désolée si j'étais un peu longue.
Tu peux répondre ? Super, super intéressant. Et je connaissais pas en fait cette notion de. Enfin, j'avais jamais pensé à cette notion-là que effectivement le tirage au sort se jouait dans d'autres institutions que juste les politiques. Et je pense que t'as complètement raison. À chaque fois, moi, c'est ce que. En fait, c'est très compliqué de repenser un nouveau système démocratique tout en disant, et là je pense que je rejoins complètement Eric à ce niveau-là, en fait il faut changer les conditions matérielles, économiques, de travail pour complètement refonder la manière dont on devrait participer politiquement. Effectivement, si on voit la politique comme une profession pour laquelle on devrait être payé, mais du coup il faut réduction massive du temps de travail pour non seulement avoir plus de temps pour des activités qui nous épanouissent, mais pour des activités politiques, pour qu'en fait ça soit... passer 3 heures en assemblée par semaine, c'est normal, quoi. On va décider de ça, c'est la routine. L'agora athénienne, c'était à 2 heures, il y a des gens qui partaient à 2 heures du matin de chez eux pour pouvoir être là à l'assemblée, parce que c'était ancré dans la culture, la culture politique. Or ici, on a vraiment été abrutis par des siècles et des siècles de démocratie représentative dans lesquelles on se trouve et qui sont cultivés par d'autres aspects de la société. Et là, j'ai peut-être pas d'autant d'exemples que l'opposé des cœurs, en fait, du coup. Donc le fait qu'on est vite cantonné à notre petite vie privée dans laquelle on peut évoluer, mais qu'en fait... En fait, on n'a pas de lieu expressément démocratique, que ça soit l'école, que ça soit le travail, et spécialement le travail où on n'a presque rien à dire, que ça soit la famille, que ça soit, il y a presque aucun lieu où en fait on va décider de manière collégiale en assemblée sur ce qui nous concerne et sur ce qui nous affecte. Donc effectivement, le fait d'avoir des institutions ailleurs pour pouvoir habituer les gens en fait simplement à sortir de ce conditionnement qui est on décide pour toi et toi tu t'appliques et tu travailles en fait, c'est super important. Et effectivement, t'as complètement raison, c'est ça par contre c'est pas du tout là dans la société. Il y a le désir de ça, Mais pour moi, ça demande un changement radical, fondamental, qui va demander une autre manière de gérer la distribution, la production, qui va demander de changer complètement les lieux de travail, et qui est indissociable d'une question d'un changement fondamental des rapports sociaux. J'ai l'impression que là, du coup, ça va nous mener très, très, très loin et bien au-delà. Mais oui, à ce niveau-là, je suis d'accord avec toi que on n'a que des désirs de ça. Alors avec les coopératives, etc., on a des petites incarnations, mais c'est des îlots, ça permet pas de changer ça. Et ça, il y a qu'un mouvement global qui veut effectivement changer et restructurer les rapports de production, les rapports de distribution, qui va pouvoir rendre possible le fait qu'on va changer la manière dont on fait la politique au final. Mais merci en tout cas pour ton intervention.
Si je peux rebondir et en profiter pour te poser une question, oui. Du coup, parce que je vais rebondir sur la question des sujets néolibéraux, parce que je me dis qu'il y a peut-être un ressort dialectique là, et c'est une mesure que Eric soutient et que je soutiens aussi, qui est le fameux revenu universel ou allocation universelle ou revenu de base. Parce que de certaine façon, le paradoxe, c'est qu'on vit dans des régimes néolibéraux dont il manque la clé de voûte, et c'est un point très intéressant. C'est-à-dire que un vrai régime néolibéral assurant que l'inégalité soit la même pour tous suppose l'allocation universelle. Et tous les grands penseurs néolibéraux le disent. Bon. Et on ne l'a pas. Et c'est quand même formidable. Enfin, ça veut dire que le néolibéralisme réel est quelque chose d'autre que le néolibéralisme en théorie, puisqu'il n'est pas capable d'implémenter la mesure qui devrait lui donner sa cohérence et sa légitimité. C'est donc que c'est une mesure, et bon, on pourrait commenter des textes d'Hayek là-dessus qui sont extrêmement contradictoires, où il explique à la fois pourquoi le revenu universel est une nécessité et pourquoi en même temps ce n'est pas possible parce que c'est la même chose que le socialisme. Et c'est très intéressant qu'il avoue ça, enfin, c'est là qu'on voit qu'il est un vrai penseur, il n'a pas peur de le dire. Et on pourrait très bien dire, là il y a peut-être un ressort en fait, justement, qui consisterait à dire, on est des sujets néolibéraux, donc donnez-nous le revenu universel. Et en fait, ça va produire des effets déstabilisants pour le néolibéralisme réel. Bon, et c'est là que j'en viens à ma question, parce que ça serait un ressort, mais justement, la question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas alors poser deux autres questions complémentaires que tu n'apportes pas ? Première question, est-ce qu'on ajoute au revenu minimum un revenu maximum ? Est-ce qu'on applique le fameux principe rousseauiste ? Il y a un seuil de pauvreté minimal, mais il y a un seuil de richesse maximale. Et ma deuxième question, c'est qu'est-ce que tu dirais dans ce cas-là ? Parce que moi, c'est une mesure à laquelle je suis assez favorable. Serge Audier l'a proposé, mais on passe vite pour disciplinaire si on la soutient, qui consiste à dire, à côté du revenu universel, il y a le fait que chacun doit prendre sa part de la corvée collective. Et donc, il faut introduire quelque chose comme un service civique. Obligatoire pour tous, qui d'ailleurs du coup va manifester le moment, le fait que la société doit quand même se reproduire elle-même. Voilà. Est-ce que ça te semble insupportable, cette idée du service civique, ou pas ?
Je voudrais rattacher peut-être la tentative de réponse à ce que monsieur demandait tout à l'heure, à savoir comment donner la part au désir de l'individu. Ouais. Je pense qu'effectivement, le premier geste politique, c'est de savoir qu'on n'est plus là comme individu de désir. Sinon, on n'accepte pas la représentation. Parce que la représentation, elle est même là dans la démocratie directe. Donc dès que je fais de la politique, c'est au sens presque d'Arendt, hein, je deviens une persona, c'est-à-dire un masque, c'est-à-dire quelqu'un qui joue un rôle, oui, bien sûr, qui joue un rôle, c'est-à-dire le rôle des convictions qu'il a, et qui sont des convictions dont ils considèrent qu'elles ont une dimension collective. Parce que si c'est une conviction purement individuelle, voilà. Or, de ce point de vue-là, je pense que l'RBI permet à ceux qui ne veulent pas de la politique de ne pas en faire. Donc je ne suis pas pour une obligation de service civique pour tous. Je pense que ceux qui veulent le refuser, ils ont le droit de refuser, et puis ils auront leurs 600 euros, parce que c'est ça le actuellement les élévations les plus vraisemblables et les plus financièrement tenables qui sont faites par un grand spécialiste belge qui est Philippe de Feit. Donc voilà. Maintenant, vivez si vous voulez avec 600 euros. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est vous qui choisissez cette vie-là. Maintenant, si vous voulez au contraire joindre ça à du service civique, à ce moment-là, ça devient tout autre chose. On entre dans la question du travail, de la participation à la vie sociale, etc. Donc je pense qu'il faut rendre le service civique obligatoire
Mais c'est pas une conditionnalité du, enfin c'est indépendant. Hein,
ah, c'est indépendant. C'est indépendant. Ah oui.
Pas comme une conditionnalité du revenu minimum. Hein.
Alors qu'est-ce que c'est le revenu, revenu maximum, c'est oui. Je pense que dans, je ne sais pas si vous avez la seule différence que j'ai entre autres avec Sixtine, c'est lié à mon âge. Je pense que c'est j'en ai marre de j'étais révolutionnaire, j'étais maoïste après mai 68 quoi. Donc et j'ai vu l'échec évidemment hein, de la solution révolutionnaire, c'est-à-dire de l'idée qu'on pourra changer absolument des mots comme absolument, on peut pas les prononcer. Donc je pense que je suis hyper sensible aux solutions partielles. J'ai parlé de comment transformer la participation purement délibérative en participation légale. Et de même ici, hein, le RBI, c'est bien entendu une solution partielle, mais c'est en même temps une solution possible. Et donc c'est l'idée du possible qui me préoccupe très fort aujourd'hui pour que ça ne reste pas des souhaits pieux hein, et qu'on ne soit pas dans... Bon, voilà, l'idée d'une assemblée des assemblées, on peut toujours la souhaiter. Elle pourrait, à mes yeux, elle remplacerait même très bien l'assemblée des représentants des partis, sauf que c'est impossible, quoi. On ne va pas afficher en l'air tous les partis, tout le système représentatif, toutes les élections, etc. Donc ce qu'il faut, c'est des injections de participation législative, des injections de participation par le RBI et le temps libre que ça donne, mais que des gens, avec ce temps libre, fassent autre chose que de la politique, je pense qu'il faut le leur laisser. Donc le RBI, ce n'est pas seulement une ouverture à la politique. C'est aussi une ouverture à la possibilité de participer à la politique, d'agir politiquement. Mais c'est aussi une possibilité, d'abord, d'agir économiquement. Enfin, on ne va pas faire un débat sur le RBI, mais je suis toujours frappé par l'idée... On parle beaucoup de la difficulté de la paysannerie. Mais un couple de paysans qui a même 600 euros chacun, ça fait 1200 euros, ils peuvent ouvrir des possibilités d'une entreprise agricole qui ne va pas être bénéficiaire immédiatement, etc. Ils peuvent tenir le coup. Un petit commerçant aussi. Il peut tenir le coup, un couple de commerçants peut tenir le coup avec ces 1200 euros, même s'ils ne sont pas rentables immédiatement. Donc ça permet même une libération économique. Ça n'est pas que politique, le RBI. Hein, voilà.
Merci beaucoup, Éric Clémence. Merci. Sixtine et Jean-Yves pour vos questions, vos interventions. Et merci à vous pour votre attention.
Merci infiniment, Sylvain Bourmont, à vous aussi pour ce brassage d'idées, vraiment, et peut-être des destins qui vont changer très prochainement avec toutes ces idées et ces pistes que vous nous donnez. Merci infiniment. On va se retrouver à la librairie Wallonie-Bruxelles avec les livres de nos invités. Et j'annonce déjà le troisième et dernier moment consacré à ce cycle Fiction et Vérité. Ce sera cette fois à la Bibliothèque publique d'information, que je remercie encore de sa collaboration. Et ce sera le 23 novembre, effectivement, une des thèmes et des axes peut-être plus philosophiques, toujours autour du travail d'Éric Clémence. Merci à tous et bonne soirée à tous. Ouais, donc c'est